À propos de l'évangile de ce matin, la guérison de l'infirme, du paralytique à la piscine probatique. Probata, en grec, probata veut dire les brebis. Donc c'est la piscine des brebis, qui est à côté, à Jérusalem, à côté d'une porte qui s'appelle aujourd'hui la porte Saint-Étienne, parce qu'elle n'est pas loin du lieu de martyr de Saint-Étienne, mais qui aussi s'appelle aussi la porte probatique, la porte des brebis. Tout simplement parce que là, c'est par là, ça donne sur la vallée du Cédron, c'est par là que l'on faisait entrer les agneaux, les moutons et les brebis, qui était destiné au sacrifice dans le temple de Jérusalem, c'est pas loin du temple. Et là, il y avait une piscine avec deux bassins, donc avec cinq portiques. Des portiques, c'est des colonnades, si vous voulez, comme des espèces de préaux. Et il y en avait cinq, c'est-à-dire quatre portiques qui faisaient le tour des piscines, et un portique, un préau comme ça, au milieu, qui séparait les piscines en deux. Ces piscines-là, c'était des grandes réserves d'eau, des immenses réserves d'eau de récupération des eaux de pluie, notamment, qui servaient là pour les purifications des animaux qui devaient être immolés au temple. Et on a retrouvé dans les années 60 ou 50-60, oui, on a fait des fouilles, on a retrouvé les restes de ces deux bassins, où on voit, quand on est un petit peu habitué à l'archéologie, parce que ce sont évidemment des ruines, on retrouve la forme des deux bassins et donc des cinq portiques. C'est pas pour vous faire faire de l'archéologie que je vous parle de ça, mais c'est intéressant de le savoir et d'avoir la vérification archéologique que l'évangile ne raconte pas des sornettes et que ce sont des choses qui ont véritablement existé, que ce sont des choses basées sur l'histoire et vérifiées de cette manière-là. Et situer cet évangile, qui arrive là ? Arrive là Jésus, qui vient du nord, c'est-à-dire de la Galilée, il vient avec ses disciples, il arrive à Jérusalem pour célébrer la Pâque, mais ça va être la double Pâque, puisque c'est la Pâque liturgique qui commémore, qui fait mémoire du passage de la Pâque, donc du peuple hébreu, depuis qui quitte la terre d'esclavage d'Égypte, pour passer miraculeusement à travers la mer Rouge et ressortir après 40 ans, on va y revenir, après 40 ans de pérégrination dans le désert du Sinaï, qui va parvenir finalement en terre promise. Donc le Seigneur va accomplir ces deux Pâques, la Pâque historique, la Pâque ancienne, et la Pâque nouvelle, de son passage, qui est aussi le nôtre, à travers la mort, vers la vie éternelle, par sa crucifixion et sa résurrection. Donc c'est vraiment, je ne dis pas d'imaginer, mais réaliser que le Christ, arrivé à l'apogée de sa mission terrestre, au moment, quelques jours avant sa mort et sa résurrection, c'est le Christ qui se trouve là, à la piscine des brebis. Et c'est-à-dire qui c'est ? Piscine des brebis, ça nous évoque évidemment le bon pasteur. Pas simplement le phénomène des ablutions, de la purification, du nettoyage, des brebis destinées au sacrifice, mais ça ne peut pas ne pas nous évoquer dans la bouche des évangélistes et dans notre tradition chrétienne celui qui vient là, qui est le bon pasteur et qui arrive dans son bercail pour sauver ses brebis. Et qu'est-ce qu'il voit ? L'évangéliste dit qu'il y avait là un homme, il y avait S'il y avait, c'est qu'il n'y ait plus. Mais de quel homme s'agit-il? Il n'y a pas à douter que les apôtres et Saint Jean aient relaté un fait historique. C'est-à-dire qu'il a bien guéri ici même, à la piscine de Bethesda, il a bien guéri un paralytique auquel il a dit de prendre sa couche et d'aller et de marcher. Ça, c'est sûr. Mais chez les évangélistes, quand ils racontent des miracles, c'est pas pour montrer que le Christ, en tant que Dieu, était capable de faire des choses extraordinaires, des choses miraculeuses, disons. Mais tous les miracles sont des signes. C'est-à-dire que ce sont d'authentiques miracles, j'allais dire matériels, mais qui ont valeur de signes, qui révèlent autre chose. Donc, dans notre lecture des évangiles, nous, il faut s'évertuer avec l'aide de l'Esprit-Saint, qu'il a ce qu'il accorde à tout le monde, à tous ceux qui le veulent, il faut s'évertuer à trouver le sens caché, en quelque sorte, le sens qui se dissimule derrière le fait historique, mais aussi que le fait et le fait historique révèlent beaucoup plus intimement que le ferait un discours. Comme je suis en train de vous en faire un. Simplement, le discours, pour moi, est encore dans mes possibilités. Le miracle, je ne me suis jamais essayé. Donc, il y avait là un homme, mais cet homme, il n'y est plus. Pas simplement parce qu'il a été guéri, qu'il a pris son grabat, puis qu'il est... et les jambes à son cou et qu'il est parti. Mais parce que cet homme, il représente l'homme, il représente l'humanité. Ce sont les hommes qui sont là. D'ailleurs, il n'est que le représentant de tous ceux qui sont présents, tous les malades, tous les éclopés qui sont là, et que cite plus ou moins Saint Jean en résumant, bien sûr. Parmi ceux-là, gisait une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, de séchés, etc., etc. C'est moi qui l'ajoute, ça. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qui nous fait dire que cet homme représente l'humanité, c'est-à-dire nous? D'abord parce que dans cet évangile, Saint Jean prend soin de nous préciser depuis combien d'années il est dans son infirmité. Il est infirme depuis 38 ans. Pourquoi il le précise? Dans un premier regard, qu'il soit infirme depuis 15 ans ou depuis 75 ans, ça ne change pas tellement grand-chose, sauf que, si c'est depuis tant de temps, on peut avoir un peu plus pitié de lui, mais ce n'est pas le but, de l'Évangile. Saint Jean précise qu'il est infirme depuis 38 ans, c'est parce qu'il fait référence à un texte du Deutéronome, c'est-à-dire... d'un livre du Pentateuque, un des premiers livres de la Bible, c'est le récit, la reprise symbolique et la théologie, si je puis dire, faite par les prophètes et les sages de l'Ancien Testament, c'est la théologie des événements qui avaient eu lieu aux origines du peuple hébreu, c'est-à-dire au moment de cette Pâque, justement, que le Christ va fêter, et nous avec, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont pérégriné pendant tant de temps, pendant toute une génération, dans le désert du Sinaï. L'auteur du Deutéronome parle que c'est le, évoque le temps de l'Exode, c'est-à-dire le temps passé dans le désert jusqu'au passage du Zaref, d'un ruisseau, si vous voulez, qui faisait frontière, avant d'entrer dans la terre promise. C'est-à-dire qu'après 38 ans de pérégrination, ça y est, c'est terminé, on ne pérégrine plus, on n'est plus des nomades, on s'installe et là, on acquiert l'héritage que Dieu nous a promis, c'est-à-dire la terre promise. On dit en gros 40 ans, mais là, le Deutéronome précise 38 ans. C'est-à-dire que quand Saint Jean précise que ce malheureux est paralysé depuis 38 ans, il montre par là que son éloignement de la terre promise est passé. Et maintenant, pour lui, c'est l'heure du salut. D'abord, évidemment, salut physique, parce que d'un coup, il va revivre, ce qui a d'ailleurs dû poser des problèmes à la famille et à lui-même, parce qu'après 38 ans, au minimum de vie, se retrouver sain tout d'un coup, pour aller retrouver une place sociale, ça ne va pas être si facile que ça. Mais c'est pas une bêtise, réfléchissez-y et vous verrez ce que ça veut dire. Et donc, c'est l'image de notre propre condition. Nous aussi, ça fait 38 ans, symboliquement pareil, symboliquement parlant. Ça fait aussi 38 ans que nous pérégrinons. Ça fait 38 ans que l'on est esclave d'un tas de choses. Tout notre être est malade, qui ne le constate pas. Tout notre être est paralysé. Nous, comment dire, malgré notre désir, à défaut de notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à marcher vers Dieu et avec Dieu. Saint Paul dit, je ne fais pas le bien que je voudrais. Saint Paul lui-même constate cette paralysie, cette infirmité. Et nous-mêmes, on n'arrive pas à se tourner vers Dieu. On ne parvient pas à domestiquer nos pensées. Dans notre pensée et dans notre cœur, nous sommes paralysés. C'est donc cet homme-là que le Christ vient guérir à la piscine de Bethesda, à travers l'image de ce paralytique, appelons-le le paralytique historique, si vous voulez. Donc ça fait 38 ans, et enfin la liberté, enfin la guérison arrive. Et pour nous qui sommes aussi depuis 38 ans, enfin la liberté arrive, et la guérison arrive, pardon, et elle va arriver dans quelques jours avec la célébration de la double Pâque, de la Pâque de l'Ancien Testament et de la Pâque nouvelle et éternelle, de la mort, résurrection du Christ qui nous permet d'entrer en passant par les eaux du Zaref, c'est-à-dire à travers les eaux du Jourdain, c'est-à-dire à travers les eaux du baptême, on peut enfin parvenir dans la terre promise qui est la vie avec Dieu, qui est le paradis, qui est le royaume des cieux. Mais pour parvenir à cela, comme pour cet homme, le Christ lui demande une certaine collaboration. Il lui dit, veux-tu devenir saint? Saint, S-A-I-N, veux-tu guérir, autrement dit. Il lui pose la question. Théoriquement, ça paraît très évident. Tout malade ou tout paralysé voudrait bien devenir saint. Mais entre le désir caprice, si je peux l'appeler comme ça, et le désir de volonté, de vouloir, de mettre son énergie pour guérir, ça c'est autre chose. Et le Seigneur sollicite la liberté de cet homme. Liberté relative, parce qu'il n'a pas la liberté de se, déplacer. Il le dit lui-même, je n'ai pas d'homme pour me jeter à l'eau, et quand je m'apprête à y aller, d'autres sont plus rapides que moi, et pour cause, et s'y jette avant que moi, j'ai pu y descendre. Donc il sollicite sa liberté. Veux-tu guérir ? Autrement dit, je l'exprime autrement, veux-tu te rendre compte de ce qu'est ta paralysie ? C'est le message qui nous est adressé à nous tous. Voulez-vous vous reconnaître pécheur ? Voulez-vous guérir ? C'est-à-dire, voulez-vous vous reconnaître malade ? Et c'est la première étape. Le Seigneur ne demande pas de nous jeter à l'eau, au sens propre du terme, de la piscine de Bethesda, mais il nous demande simplement de vouloir cette guérison, c'est-à-dire de vouloir être converti. Je ne dis pas même pas nous convertir, mais vouloir nous laisser convertir par Dieu. Et je dis bien nous laisser convertir par Dieu. Parce que l'homme lui répond, je n'ai pas d'homme pour quand l'eau bouillonne me jeter dans la piscine. Ben évidemment, une telle paralysie, la sienne et la nôtre, c'est pas un homme qui peut la guérir. Ça ne peut être qu'un Dieu, enfin que le Dieu. Et alors, je ne prétends pas qu'il y en ait plusieurs. Donc il répond justement, je n'ai pas d'homme. Il répond prophétiquement, si je puis dire. Il n'avait pas conscience de prophétiser, mais de fait. Sa parole est d'une prophétie. Je n'ai pas d'homme, donc j'attends quelqu'un d'autre. J'attends. J'attends quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, jusqu'à présent, il l'attendait d'une manière miraculeuse, parce que certains documents évangélique met une précision qui est un ajout certainement dès les premiers siècles. Il y a un ajout, un verset ajouté qui dit « Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier à l'heure à y entrer, après que l'eau eût été agitée, se trouvait guéri, quel que fût son mal. » Le miracle que l'homme pouvait attendre, c'était l'intervention d'un ange qui faisait bouillonner l'eau. Il y a plusieurs choses à retenir. Que ce n'est pas un ange aujourd'hui qui apparaît, mais c'est le Seigneur lui-même, c'est Dieu, et non plus un représentant de Dieu, qui vient faire bouillonner l'eau. Et ce bouillonnement d'eau fait que d'une eau stagnante, elle devient une eau vive, une eau vivante. Vivante dans les deux sens du terme, c'est-à-dire une eau qui court, qui s'agite, mais aussi une eau qui donne la vie. Vous reconnaissez tout de suite, évidemment, la figure du baptême. Et quand en plus, on voit que l'eau bouillonne, qu'est-ce qui peut faire bouillonner de l'eau ? Scientifiquement, je vous dirais un gaz ou de l'eau, de la vapeur d'eau qui se forme. Mais c'est toujours de l'air en quelque sorte. Pour ça, je dis un gaz. Hors d'air, qui peut faire vraiment bouillonner de l'eau, qui donne une vie autre que la vie pour les plantes ou nos corps. Ça ne peut être que l'Esprit Saint. Donc cet homme attendait un ange, et maintenant c'est le donateur d'Esprit Saint qui vient se présenter et qui vient non plus le jeter à l'eau, mais à travers la figure de l'eau qu'il dépasse, parce que vient un temps où le salut nous est donné non pas par l'eau, mais par l'eau et l'Esprit. Et c'est par l'Esprit Saint, là maintenant, que l'homme et que communique le Christ, c'est par cet Esprit Saint que l'homme est guéri. Et je continue à dire que l'homme n'est pas simplement ce paralytique, mais c'est nous-mêmes qui sommes l'homme. Et la preuve encore qu'il s'agit bien de nous dans cet évangile, c'est que après que le Seigneur lui ait dit ben, prends, dresse-toi, prends ton grabat et marche, aussitôt l'homme devient saint, il prend son grabat et en traduction littérale, et il marche. C'est pas il marchait, comme si ce paralytique tout d'un coup prend sa couche et se met à courir heureux d'être guéri, mais c'est qu'il marche encore. Autant tout à l'heure il y avait un homme, mais qui n'est plus. Maintenant cet homme marche et il marche encore. C'est-à-dire c'est un autre homme, c'est-à-dire l'homme qui est toute l'humanité. Je ne sais pas si j'étais à peu près clair, mais et j'essaie de vous donner cette explication, pas complètement rationnelle, mais enfin, mais quand on lit les Écritures, il faut les ruminer. Je n'ai pas dit de manger du papier, hein. Mais il faut les ruminer, c'est-à-dire il faut les lire plusieurs fois, sans chercher à faire ce que je viens de faire, de vous donner, de trouver une explication. Mais il faut les lire, les relire plusieurs fois. Par exemple, vous avez l'évangile du dimanche, toute la semaine, il faut revenir à l'évangile, y repenser dans la journée, essayer de comprendre pourquoi. Et à un moment ou un autre, l'Esprit Saint vient et vous éclaire. Il éclaire sur un point, ou sur un autre, ou sur l'ensemble. Encore que l'ensemble, on n'a jamais fait le tour d'un évangile. Jusqu'à la fin des temps, on aura encore à découvrir constamment. Mais il faut vivre avec l'évangile. Il faut que nous rencontrions véritablement le pasteur de ces brebis pour que nous soyons nous aussi nettoyés dans la piscine du baptême. Mais quand je parle du baptême, la piscine du baptême, je parle non pas uniquement du sacrement de baptême, quoique ce ne soit pas autre chose, mais je parle du baptême accompli ou du baptême assumé. Qu'est-ce que le baptême assumé ? C'est le baptême qu'on n'a pas reçu un jour et puis on s'en rappelle plus, mais que l'on actualise, que l'on vit véritablement comme un mystère de notre purification, le mystère de notre communion avec Dieu. C'est aujourd'hui que l'on doit assumer, que l'on doit vivre des effets du baptême, sans être pour autant des grands mystiques, en tout cas pas dès le premier jour. Il faut le bouillonnement de l'eau du baptême dans lequel nous avons été plongés nous amène une vie, amène en nous le développement ou les germes d'une vie nouvelle qu'il faut développer, de manière à trouver la guérison. Mais pour trouver la guérison, la première chose, c'est d'abord d'avoir conscience de notre paralysie, de notre infirmité. Si on ne se reconnaît jamais malade, on ne peut jamais se faire soigner. Donc il faut d'abord nous repentir, car c'est de ça qu'il s'agit, et nous repentant, il n'y a aucun doute que le Seigneur, se promenant dans le portique, dans les cinq portiques du monde dans lequel nous sommes, nous trouve à un moment donné et nous demande à tous, sans aucune exception, « Veux-tu guérir ?» Et après, tout dépend de notre réponse. Si on se trouve bien, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, si on se trouve bien dans notre maladie, parce que un infirme depuis toujours s'installe dans sa maladie. Il a, même si à cette époque-là, la sécurité sociale n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais il y a toujours eu des aides, il y a eu des dons, il y avait et ça donne un certain équilibre social. Il était là, lui, il n'avait pas besoin de travailler, il était vraisemblablement pauvre. Il regardait les autres, il regardait le temps passé, puis il attendait, son seul souci, c'était de pouvoir être plongé dans l'eau. Ça veut dire qu'il avait une espérance, quand même. L'espérance, au moins, d'être guéri un jour. Mais il fallait encore qu'il fasse l'effort, l'effort de ne pas se contenter de sa situation, mais de désirer autre chose, de guérir, de choisir, de souhaiter la guérison. Or, nous-mêmes, dans notre déchéance, et je ne parle pas simplement de nos péchés, mais je parle de notre condition pécheresse, souvent, nous nous satisfaisons de notre condition. « Ouais, je sais bien que je suis pécheur, mais enfin, il y a pire que moi, hein, etc. » Et on ne devrait pas réagir. Il faudrait vraiment avoir le vif désir de souffrir de notre condition pécheresse, paralysée, pour pouvoir en sortir ou pour attendre que quelqu'un nous en fasse sortir ou que quelqu'un nous plonge dans cette eau. Et les eaux du baptême accompli ou baptême assumé, c'est ce que nous trouvons, ce que nous pouvons trouver dans notre conversion à travers la confession, la confession de nos péchés. Je ne parle pas uniquement de la confession sacramentelle, mais de notre remise honnête devant Dieu, constater avec regret notre état de pécheur, que l'on trouve dans la prière. La prière, c'est ce mouvement de conversion, c'est « je veux guérir » qui se manifeste autrement. En gros, c'est ça que ça veut dire, mais ça se manifeste autrement par ce désir d'aimer Dieu et cette souffrance de ne pas l'aimer suffisamment. Et aussi dans notre jeûne et aussi dans notre participation aux offices, c'est-à-dire toute notre conversion. Le Seigneur, l'eau dans l'Église, l'eau bouillonne en permanence. Le Saint-Esprit est à l'œuvre perpétuellement. Et à nous d'être réceptifs à ce bouillonnement de l'eau pour acquérir le salut.